Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, pour cette nouvelle émission au fil des pages, je vous propose de vous intéresser au successeur de Louis Pasteur. Il s'appelle Duclos, Roux, Calmette, Yersin et Mechnikov. Ces noms ne vous disent peut-être rien, pourtant ils ont contribué à réduire la mortalité dans le monde en mettant au point tout au long du 19e et 20e siècle les vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la rougeole, le BCG, contre la tuberculose. Ils ont également en commun d'avoir tous dirigé l'Institut Pasteur. Maxime Schwartz, bonjour.
Bonjour madame.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Academy. Je vous vois faire la moue, donc j'imagine que parmi les noms que nous allons évoquer, certains n'ont peut-être pas tout à fait dirigé l'Institut Pasteur et nous y reviendrons dans quelques instants. Permettez-moi auparavant de vous présenter à nos auditeurs. Vous êtes déjà co-auteur avec Annick Perrault de Pasteur et ses lieutenants, donc ces personnages dont nous allons évoquer le souvenir dans quelques instants. Pasteur et ses lieutenants, paru aux éditions Odile Jacob en 2013, et Annick Perrault est conservateur honoraire au Musée Pasteur à Paris, et vous-même, Maxime Schwartz, vous avez dirigé l'Institut Pasteur, vous êtes biologiste moléculaire et correspondant à l'Académie des sciences. Dans votre ouvrage, Maxime Schwartz, vous avez retracé le destin de ces hommes qui ont en commun d'avoir dirigé l'Institut Pasteur. Vous nous en direz plus dans quelques instants. Ils ont consacré leur vie à mettre au point des sérums et des vaccins contre les maladies infectieuses mortelles. Et vous avez introduit dans votre ouvrage les propres notes de ces personnalités, donnant un ton de journal de bord, assez facile d'accès. Et on se prend au jeu de cette aventure dont le seul but est de sauver des vies. En préface, vous écrivez que ce sont des hommes qui ont mené la guerre au virus pendant 100 ans, pendant que trois vraies guerres répandaient la mort en 1870, pendant la Première Guerre mondiale, 14-18, et la Seconde, 39-45. Alors comment se fait-il aujourd'hui, Maxime Schwartz, que l'on connaisse aussi mal ces personnalités, puisque Mechnikov, notamment, est père de l'immunologie, a été un prix Nobel?
Oh bien, la raison est relativement simple, c'est qu'ils ont tous travaillé avec Louis Pasteur. Louis Pasteur est une immense gloire nationale et internationale, et cette gloire a un peu occulté celle de ceux qui ont travaillé avec lui et qui ont fait des choses extraordinaires, tant avec lui que sans lui, lorsqu'il n'était plus en mesure de travailler.
Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Auparavant, donc peut-être corrigez-moi dès maintenant, je disais que tous avaient dirigé l'Institut Pasteur, ce n'est pas tout à fait le cas.
Non, Duclos a été le premier successeur de Pasteur et avait en fait dirigé l'Institut Pasteur sans être directeur dès l'ouverture de l'Institut, parce qu'à ce moment-là, Pasteur était déjà très fatigué et malade. Et puis, à la suite de Duclos, en 1904, c'est Roux qui a pris la direction et qui l'a dirigé pendant 30 ans. Les autres ont dirigé des instituts pasteurs outre-mer. C'était le cas de Calmette, de Yersin. Quant à Mechnikov, il a été sous-directeur de l'Institut Pasteur pendant un certain temps.
Alors voilà, maintenant entrons dans le vif du sujet, si vous voulez bien, Maxime Schwartz. Commençons par le premier, Émile Duclos, qui bien sûr a travaillé sur les vaccins, mais a également travaillé sur la question de l'hygiène, car c'est un sujet bien sûr qui est concomitant à la recherche sur les vaccins, qui était cher aussi à Pasteur.
Oui, Duclos n'a pas vraiment travaillé sur les vaccins. Il est entré dans la sphère d'influence de Pasteur à l'école normale. Il se trouve qu'il a fait ses études pour entrer à l'école normale dans la pension Barbet où Pasteur avait lui-même fait ses études. Et c'est le directeur de cette institution qui a trouvé que Duclos était quelqu'un d'extraordinaire et qu'il fallait absolument qu'il travaille avec Pasteur. Donc c'est ce monsieur qui a encouragé Duclos à présenter le concours de l'école normale. Il a été reçu brillamment. Et ensuite, Duclos a commencé à travailler avec Pasteur. Alors quand il est arrivé dans le laboratoire de Pasteur, ce n'était pas encore l'époque des vaccins. À ce moment-là, Pasteur travaillait sur les fermentations, sur le problème des générations spontanées, puis ensuite sur les maladies des vers à soie, sur les maladies du vin, de la bière, etc. Donc c'est surtout à ces sujets que Duclos a été associé à Pasteur. Disons, Duclos est souvent considéré comme étant l'apôtre de l'évangile pasteurien, c'est-à-dire qu'il a énormément contribué à faire connaître les travaux de Pasteur, ses idées, sur le terrain d'une part, parce que par exemple il allait convaincre les agriculteurs dans le Cantal, d'où il était originaire, qu'il fallait utiliser le vaccin contre le charbon, ou bien convaincre les producteurs de vin qu'il fallait pasteuriser le vin pour qu'il se conserve, etc. etc. Donc sur le terrain, et d'autre part, eh bien, il a contribué par ses écrits à la diffusion des idées de Pasteur. C'est lui qui a créé les Annales de l'Institut Pasteur, qui ont été une très grande revue de microbiologie pendant près d'un siècle, et qui a écrit plusieurs traités de microbiologie.
Et donc mettant en valeur aussi l'identité de Pasteur, c'était un peu son chargé de communication, on peut dire.
Si vous voulez. Enfin, c'était plus que ça. Et ensuite, il a donc dirigé l'Institut Pasteur, et c'est lui qui a donné son esprit à l'Institut Pasteur, qui est quand même tout à fait particulier.
Donc, Émile Duclos, plus sur les questions, on va dire, agricoles, il a aussi travaillé, je crois, sur le phylloxéra.
Non, il n'a pas travaillé sur les phylloxéra. En fait, Duclos, c'était beaucoup de travaux sur les microbes utiles, ceux qui servent dans les fermentations, par exemple. Il a beaucoup travaillé sur la fermentation du lait. Il a inauguré, comme l'a dit Roux, l'ère scientifique de la fromagerie, de la laiterie.
Alors, Roux, justement, passons à ce deuxième personnage. Je n'ai pas précisé, Émile Duclos était à l'Académie des sciences, Roux aussi, mais peut-être que tous, d'ailleurs, sont entrés à l'Académie des sciences.
Non, je ne crois pas que Calmette, Yersin... Et Metchnikov non plus, je n'ai pas l'impression.
Alors Roux, en tout cas, était à l'Académie des sciences. Il travaillait pour lui sous la responsabilité de Duclos et c'est lui qui va le présenter à Pasteur.
C'est-à-dire, c'est effectivement Duclos qui a présenté Roux. Roux a rencontré Duclos alors que celui-ci était professeur à Clermont-Ferrand. Et bon, ils se sont beaucoup plu, si je peux dire, l'un l'autre. Ensuite, il se trouve que Duclos a dû partir travailler à Lyon. Roux est parti à Paris, s'est retrouvé rapidement sans le sou. Et heureusement, il a retrouvé Duclos qui était à ce moment-là revenu à Paris. Il a aidé Duclos dans ses enseignements et puis Duclos l'a présenté à Pasteur. Alors c'était un très bon moment parce que c'était celui où Pasteur a commencé à s'intéresser aux maladies contagieuses. Et Pasteur n'était pas médecin, Pasteur était chimiste, physicien. Il avait besoin d'un médecin pour travailler sur ses problèmes de maladies infectieuses. Donc Roux était une très bonne recrue pour faire ses travaux. Et il faut vraiment dire que Roux est intervenu très tôt dans les travaux sur les maladies infectieuses et tout particulièrement sur tout ce qui a concerné les vaccins. Beaucoup de choses qui sont associées au nom de Pasteur, en fait, doivent beaucoup à Roux. Les premiers travaux de Pasteur sur les vaccins, ça a été sur une maladie qu'on appelait le choléra des poules, ensuite sur le charbon, qui était une maladie animale, et puis ensuite il y a eu la rage. Eh bien, dans les trois cas, Roux a eu une contribution intellectuelle considérable. C'est un peu lui qui a, en fait, trouvé les moyens d'atténuer ces microbes, puisque c'était le mot qu'on utilisait à l'époque. On avait des microbes au sens large. À l'époque, on ne savait pas distinguer entre bactéries, virus, etc. Donc, il s'agissait de prendre ces microbes virulents et de les traiter de telle façon qu'ils ne donnent plus de maladie, soient donc atténués. Et ils ont découvert que quand on injectait ces microbes atténués, eh bien, ça déclenchait une immunité. On n'employait pas encore le mot, mais enfin, c'était ça, une immunité contre la maladie elle-même. Donc, Roux a joué un très, très grand rôle dans tous ses travaux sur les vaccins qui ont énormément contribué à la gloire de Pasteur.
Alors, justement, voilà, donc vous le dites, il a joué un très grand rôle sur ces vaccins. Donc, vous le disiez, choléra des poules, le charbon, la rage, qui est un des éléments sur lesquels Pasteur est le plus connu. J'imagine que Émile Roux, du coup, a dû avoir une petite amertume de voir que Pasteur récoltait un peu les fruits de ce succès et qu'il n'était pas forcément associé aux yeux du grand public.
Il y a eu quelques difficultés entre Roux et Pasteur, mais qui n'ont pas empêché une énorme admiration et affection, en fait, de Roux pour Pasteur. Il faut dire que pour ce qui concerne la rage, Roux n'était pas du tout d'accord lorsque Pasteur effectuait son premier vaccin sur le petit Joseph Meister. Il estimait qu'il n'y avait pas assez de résultats obtenus chez le chien pour qu'on passe déjà à l'homme. Donc, il n'a pas été associé même à la première publication sur, justement, la première vaccination humaine contre la rage. Mais il faut dire que Roux ne s'est pas contenté de collaborer avec Pasteur. Par la suite, Pasteur était encore vivant, mais c'est quand même l'œuvre de Roux et de Yersin dont on va parler après. Roux s'est surtout illustré par des travaux sur la diphtérie, qui était une maladie épouvantable. C'est toujours une maladie épouvantable, mais à l'époque, elle touchait tous les pays. En France, on avait 30 à 40 000 enfants qui mouraient de diphtérie chaque année dans des conditions épouvantables, parce qu'ils avaient ce qu'on appelle des fausses membranes au fond de la gorge qui les empêchaient de respirer, ils étouffaient littéralement, et c'était vraiment une maladie terrible. Eh bien, Roux est intervenu, disons, à deux stades. La première chose, c'est qu'il a démontré que le microbe de la diphtérie produisait un poison, qu'on appelle la toxine diphtérique, et ça, c'est un travail qu'il a fait avec Yersin, c'était la première étape. Ensuite, l'étape suivante, ça n'est pas eux qui l'ont faite, mais les Allemands, notamment Bering et Kitasato, c'est l'école de Robert Koch, qui était rivale un peu de celle de Pasteur, et ceux-là ont montré que quand on injectait de la toxine dans des conditions où on ne tuait pas un animal, cet animal se mettait à produire dans son sang, dans son sérum, ce qu'on a appelé une antitoxine, un antipoison. Et alors c'est là que Roux et ses collaborateurs sont revenus sur le devant de la scène et ils se sont trouvé le moyen d'exploiter cette découverte pour soigner, pour guérir des enfants atteints de diphtérie. En effet, ils ont injecté de la toxine à des chevaux et avec le sérum de ces chevaux qui contenait l'antitoxine, l'antipoison, on pouvait l'injecter ce sérum à des enfants atteints de diphtérie et ça a permis de mettre au point ce qu'on a appelé la sérothérapie. Alors, au début, le résultat n'a été que de diminuer de par deux la mortalité. La mortalité était d'environ 50%. Les enfants atteints de diphtérie, la moitié en mouraient. Déjà là, dans la première, qu'on appellerait essai clinique aujourd'hui, ça a réduit de moitié à 25%. Mais ensuite, on est arrivé à des taux de réussite quand même de l'ordre de 90 ou plus % de guérison. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. C'était la première fois dans l'histoire qu'on pouvait guérir une maladie infectieuse. Et ça, 50 ans ou 40 ans avant la découverte des antibiotiques.
Donc la diphtérie, œuvre de Roux et de Yersin.
Et de Yersin.
Et on retrouve donc dans votre ouvrage, je suis en train de le feuilleter, voilà, ça y est, je tombe sur la page, il y a une illustration, une photo justement, où on prélève le sérum sur un cheval. Voilà, donc j'imagine au cours des essais cliniques. Émile Roux, au chevet d'un enfant subissant une sérothérapie à l'hôpital des enfants malades. Voilà, donc il y a effectivement en plus des illustrations dans votre ouvrage. Avant de venir à Alexandre Yersin, il y a d'autres personnalités scientifiques aussi qui font leur apparition. Le premier, c'est Albert Calmette, qui est connu pour avoir mis en place le fameux BCG. BCG qui veut dire bilier de Calmette et Guérin. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce personnage, Albert Calmette? Très prolifique d'ailleurs, je crois, dans ses découvertes.
Albert Calmette a eu une vie tout à fait extraordinaire. Il voulait être marin. Il n'a pas pu l'être parce qu'il a eu la typhoïde au moment où il devait préparer l'école. Et finalement, il a pu quand même entrer dans l'école de santé de la marine. Il a donc commencé sa carrière comme médecin de la marine. Et là, au début, il a fait des campagnes, puisqu'il était médecin de la marine. Il a fait campagne dans la guerre franco-chinoise qui était dans le golfe du Tonkin. Tout le monde a oublié qu'il y a eu une guerre franco-chinoise, mais c'était au moment de l'installation de la France en Indochine. Ensuite, il a fait une mission en Afrique, au Gabon, et puis s'est marié. Et comme voyage de noces, il a emmené sa femme pour sa troisième mission à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui n'est pas tout à fait l'endroit dont on rêverait pour un voyage de noces.
C'est un peu frais là-bas.
Il a fait des travaux aussi très intéressants. Il a commencé à faire des travaux pasteuriens avant d'avoir mis le pied à l'Institut Pasteur. Là-bas, c'est la morue, la source principale de l'économie. Et les morues à bord des navires, souvent, avaient ce qu'on appelait le rouge de morue. Elles devenaient rouges, c'était considéré comme toxique et ça posait des gros problèmes. Eh bien, Calmette a montré que c'était un microbe qui donnait ce rouge de morue. Il a vu que ça venait de certains sels utilisés pour conserver les morues et il a trouvé un moyen d'empêcher cette prolifération des microbes. Donc, c'était déjà un travail pasteurien. Ensuite, il est rentré à Paris et il est entré à l'Institut Pasteur pour suivre le cours de M. Roux, parce que des grandes choses de Roux, c'est qu'il a mis au point un enseignement à l'Institut Pasteur. Et à l'issue de ce cours, eh bien, Pasteur lui a proposé de partir en Indochine pour essayer de protéger les populations contre la variole, par le développement du vaccin contre la variole, et aussi du vaccin contre la rage. Donc Calmette est parti là-bas, il a effectivement remporté de très importants résultats dans la lutte contre la variole, contre la rage. Il a en même temps fait une découverte dont on profite tous encore aujourd'hui. Il y avait des problèmes de cobra là-bas qui mordaient les gens et beaucoup en mouraient. Et il a mis au point ce qu'on appelle aujourd'hui la sérothérapie antivenimeuse. Et c'est ce même principe qu'il a utilisé ensuite quand il est revenu en France pour traiter les morsures de vipères et autres. Donc quand vous partez en randonnée et que vous emportez du sérum antivipère ou antivenimeux, c'est grâce à Calmette. Et une fois rentré à Paris, eh bien, il a été envoyé à ce moment-là par Roux et Pasteur à Lille pour créer l'Institut Pasteur de Lille. Donc, c'est lui le créateur. C'était en 1894. Et c'était pendant qu'il était là-bas qu'il a commencé ses travaux sur la tuberculose et qu'avec Guérin, il a mis au point. Alors, ça a été en partie avant la guerre de 14 et ensuite après la guerre de 14, il a continué, il était revenu à Paris, le fameux BCG, bacille bilier de Calmette et Guérin, qui a été un des facteurs qui ont permis de réduire dans des proportions considérables l'incidence de la tuberculose. À titre indicatif, ce n'est pas seulement dû au BCG, mais au début du XXe siècle, il y avait à peu près 150 000 morts de tuberculose en France, c'est-à-dire une mort sur 5 à 7 était due à la tuberculose. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un très petit nombre de centaines de morts de tuberculose en France, et ce sont souvent d'ailleurs des immigrés.
Justement, une petite parenthèse qu'on va vite refermer puisque le temps file. Justement, sur cette question de la tuberculose, aujourd'hui, on reparle justement de cas de tuberculose en France. Alors, le BCG est depuis peu un vaccin qui n'est plus obligatoire. Que peut-on dire justement justement sur cette situation actuelle en fait?
Le BCG n'est plus obligatoire parce que finalement le BCG n'a quand même que peu d'effets secondaires en tant que vaccin et jusqu'à récemment on pouvait soigner quand même la tuberculose avec des antibiotiques. Le gros problème qui se pose, c'est que de plus en plus se développent des souches de bacilles de la tuberculose qui sont résistantes aux antibiotiques parce que comme on a beaucoup utilisé antibiotiques, il y a une sélection de souches résistantes et maintenant on arrive à avoir des souches de bacilles tuberculeux dont on ne peut plus se débarrasser avec les antibiotiques actuels. Donc c'est ça la grosse crainte d'un retour possible de la tuberculose.
Alors, parenthèse fermée, nous allons repasser dans le passé. Après Albert Calmette, passons si vous voulez bien à Alexandre Yersin, à qui on doit, je crois, notamment la découverte du bacille de la peste.
Oui, alors Yersin, lui, c'était un Suisse du canton de Vaud. Il a eu une enfance, d'ailleurs, difficile. Je n'ai pas parlé de l'enfance des autres, mais tous ont quand même dû beaucoup se battre pour en arriver où ils sont arrivés. Mais lui, son père est mort avant sa naissance, donc il a vraiment fait son chemin tout seul. Il a terminé ses études de médecine à Paris, il a fait la rencontre de Roux et il est entré donc à l'Institut Pasteur, 85 je crois, ou 86. Et là, il était pris sous l'aile de Roux, c'est vraiment Roux qui a été le maître de Yersin. Et avec Roux, Yersin a beaucoup contribué aux travaux, à la découverte de la toxine diphtérique. C'est d'ailleurs même Yersin qui a encouragé Roux à travailler sur la diphtérie, parce que Yersin travaillait aussi à l'hôpital et était confronté aux petits malades de la diphtérie. Et puis ensuite, il avait besoin d'air, d'espace, il se sentait enfermé dans les laboratoires. Il est parti pour ce qui était alors l'Indochine. Il est parti comme médecin des messageries maritimes. Et puis là-bas, il a été très intéressé par le pays qu'on voyait depuis les bateaux, qui était très peu exploré. Il a donc fait des explorations souvent assez dangereuses dans le centre de la Nam, traversant la chaîne anamitique. Il s'est même battu avec les Moy, qui étaient les habitants là-bas. Enfin, il y a eu des problèmes difficiles. Et puis, il a été appelé tout d'un coup par le gouvernement français à s'occuper du problème de la peste, parce que la peste se redéveloppait dans le sud de la Chine et il y avait des craintes que la peste arrive dans notre colonie d'Indochine. Alors, Yersin est parti à Hong Kong, puisque c'était là apparemment l'endroit le plus commode pour étudier l'épidémie. Il est arrivé là alors qu'il y avait un groupe dirigé par le japonais Kitasato qui était déjà sur place. On a tout fait pour lui mettre des bâtons dans les roues, pour lui empêcher d'avoir accès aux malades ou aux morts plutôt de la peste, pour voir quel microbe il pouvait avoir. On l'a vraiment empêché de travailler, mais en dépit de tout cela, il a fait construire une petite paillote dans laquelle à la fois il habitait et travaillait, et en moins d'une semaine, il a isolé le bacille de la peste, alors que Kitasato de son côté croyait l'avoir isolé, mais en fait avait isolé le pneumocoque. Donc c'est vraiment Yersin qui a découvert le bacille responsable de la peste, qui a été une découverte énorme, parce que Dieu sait ce que la peste représentait dans l'histoire. Et non content de cela, il a envoyé le bacille de la peste à l'Institut Pasteur à Paris, où là-bas on a commencé à mettre au point un sérum antipesteux. Yersin a d'ailleurs été sur place à Paris pour contribuer à la fabrication de ce sérum. Et grâce à ce sérum qu'il a rapporté en Indochine, il a pu soigner des gens qui allaient mourir de la peste. Et ça, c'était la première fois dans l'histoire qu'on pouvait guérir un pesteux qui était sur le point de mourir.
Alors j'imagine que là débutait, on va dire, l'aura un peu plus internationale de l'Institut Pasteur.
L'aura de l'Institut Pasteur a commencé dès le début, parce que l'Institut Pasteur a été construit grâce à la générosité publique. C'est l'Académie des sciences qui avait lancé une grande souscription internationale pour permettre la prophylaxie de la rage. C'était ça l'idée. Mais le succès des vaccinations contre la rage, les premières faites par Pasteur, a été tel que le monde entier a apporté son obol et que les fonds recueillis ont permis de construire quelque chose de beaucoup plus grand qu'un seul institut de la prophylaxie de la rage, mais l'Institut Pasteur qui avait des missions à la fois de santé publique, de recherche et d'enseignement. Donc d'emblée, l'Institut Pasteur a eu une excellente réputation, mais il est sûr que les résultats sur la diphtérie, la découverte du bacille de la peste, ultérieurement la mise au point du BCG, etc., ont beaucoup contribué à la renommée de l'Institut Pasteur.
Alors, dernier personnage que vous abordez dans votre ouvrage, qui est lui ukrainien, ancienne province de l'ex-Union soviétique, Elie Mechnikov, qui arrive à l'Institut Pasteur et qui, lui, travaille également dans son laboratoire, fait venir de nombreux étudiants. Quelles vont être ses recherches le concernant?
Elie Mechnikov, il est arrivé à Pasteur, il devait bien avoir déjà une quarantaine d'années, je ne me souviens plus des années exactement. Il avait déjà parcouru le monde, beaucoup. Il était très instable, disons. Mais il avait déjà fait une découverte très importante qui était la découverte de la phagocytose. Cette découverte à Naples, et ça ne concernait pas l'homme, ça concernait des larves d'étoiles de mer, où il a constaté constater que si on mettait une petite épine dans une larve d'étoile de mer transparente, on voyait des tas de cellules qui s'aggloméraient autour de l'épine. Et il a fait le rapprochement entre ceci et ce qui se passe quand on se fait une blessure et où il y a effectivement des tas de cellules qui arrivent, qui forment ce qu'on appelle le pus. Et donc c'est là qu'il a eu l'intuition que pour nous défendre contre les infections, eh bien on avait des cellules particulières qui étaient chargées d'aller en fait digérer les microbes qui pouvaient se présenter. Et en fait, bon, il avait beaucoup entendu Pasteur, il a fini par atterrir à l'Institut Pasteur juste avant la création de l'Institut Pasteur. En fait, il a rencontré Pasteur quelques mois avant, et Pasteur, qui a été très impressionné par les idées et les résultats de Metchnikoff, qui a d'emblée proposé de prendre la direction d'un laboratoire dans ce nouvel institut. Et là, eh bien, le travail principal de Metchnikoff a consisté à développer les preuves en faveur de ce rôle de cellules particulières, et c'est ce qu'on appelle couramment les globules blancs, disons, ceux qui sont dans le sang, qui ont pour mission, dès qu'il y a des organismes étrangers qui pénètrent dans notre corps, d'aller se précipiter dessus et de les dévorer. Donc c'est un des mécanismes de base de ce qu'on appelle aujourd'hui l'immunologie cellulaire. Et ces travaux-là lui ont valu le prix Nobel en 1908. Et d'ailleurs, la même année, c'est lui qui a eu le prix Nobel, il l'a partagé avec Ehrlich, qui était un Allemand, qui lui avait démontré le rôle d'un autre aspect d'immunité, l'immunologie, qui est l'immunologie humorale, qui fait intervenir ce qu'on appelle les anticorps. Et ce travail sur les anticorps était la continuation de ce que Bering et Kitasato avaient fait initialement dans le cas de la diphtérie, où ils avaient montré qu'il y avait ces antitoxines qui étaient produites. Ben, les antitoxines, en fait, c'était des anticorps. Et Ehrlich avait développé cette idée d'anticorps. Donc en 1908, on a récompensé pour la première fois l'immunologie dans ces deux grands aspects, les cellules qui viennent manger les microbes, si vous voulez, et les anticorps qui contribuent d'une autre façon à se défendre contre tous les corps étrangers.
Alors, prix Nobel, je crois qu'à l'Institut Pasteur, vous avez 8 personnes, 8 scientifiques.
Il y a eu 10 prix Nobel à l'Institut Pasteur jusqu'à maintenant. Alors, Pasteur n'a pas eu le prix Nobel, mais parce que le prix Nobel n'existait pas encore lorsque Pasteur est mort.
10 prix Nobel à l'Institut Pasteur, je trouve que c'est quand même une très très belle carte de visite. Aujourd'hui, vous avez 32 instituts répartis dans le monde, c'est ça ?
Oui, alors dire qu'on a, c'est peut-être pas le mot, mais déjà, Calmette, quand il était parti en Indochine, il avait créé ce laboratoire pour traiter la variole, etc. Et en fait, c'est devenu ensuite l'Institut Pasteur de Saïgon, qui est devenu aujourd'hui Institut Pasteur d'Ho Chi Minh-ville. Ça a été le premier institut qui était hors métropole. Et par la suite, eh bien, toute une série d'autres instituts se sont créés, d'abord dans ce qu'était l'Empire français, et ensuite dans d'autres pays qui n'ont jamais été sous domination française. Donc aujourd'hui, il y a une trentaine d'instituts. Il y en a 6 qui sont sous l'autorité, disons, de l'Institut Pasteur à Paris, rejoignant un petit peu le terme de filiale qui était utilisé initialement. Mais enfin, filiale, c'est un terme industriel ou de société. Les autres sont tout à fait indépendants de l'Institut Pasteur, mais ils sont réunis par une charte, un accord général, si vous voulez, de coopération. Il y a des réunions annuelles des directeurs, il y a beaucoup de programmes en commun. Et le gros intérêt de ces instituts, c'est souvent qu'ils sont situés dans des pays où il y a des maladies qui sont endémiques, prenons le paludisme par exemple. Eh bien, on a des relations entre des instituts qui sont en contact direct du paludisme, et donc de la clinique, de l'épidémiologie, comme celui de Madagascar ou celui de Dakar, qui collaborent avec l'Institut Pasteur à Paris, lequel est plus équipé pour faire des études en profondeur sur le micro-organisme responsable et les interactions avec l'hôte.
Alors, dernière question, Maxime Schwartz. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les antibiotiques ont pris le pas sur les vaccins ?
Absolument pas. Les antibiotiques, ça intervient lorsqu'on est déjà infecté, donc il s'agit d'essayer de tuer le microbe sans faire de mal à l'hôte. Les vaccins, c'est pour protéger. Alors, il y a des cas où on pourrait peut-être se passer des vaccins, si vraiment les antibiotiques étaient valables à tout coup, mais malheureusement, on a ce problème de résistance aux antibiotiques. Mais dans tout le cas des maladies virales, par exemple, on a très très peu d'antiviraux, et la seule façon de se protéger, c'est d'avoir un vaccin. Et on n'a malheureusement pas des vaccins contre toutes les maladies. D'abord, il y a des problèmes scientifiques, on n'arrive pas, par exemple dans le cas du sida, on n'a toujours pas de vaccin. Et puis d'autre part, on ne peut pas vacciner contre toutes les maladies, surtout celles qui sont un peu rares.
Eh bien, je vous remercie Maxime Schwartz d'être venu nous voir. Pour en savoir plus sur Émile Duclos, Émile Roux, Albert Calmette, Alexandre Yersin ou encore Elie Metchnikoff, eh bien, je renvoie à votre ouvrage coécrit avec Annick Perrault, dont je rappelle le titre « Pasteur et ses lieutenants, Roux, Yersin et les autres », paru aux éditions Odile Jacob en 2013. Merci à vous d'être venu nous voir et puis nous vous souhaitons bonne continuation dans l'écriture d'ouvrages de vulgarisation scientifique. Merci à vous.
Merci à vous de m'avoir invité.